Radio Bonn.
Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Vous êtes sur Radio Pomme et je m'appelle Lily. Je suis en grande section à l'école Marie-Ribier. Avec Lucas et Libby, on va vous présenter le sommaire de la 18e émission de Radio Pomme. Salut les copains!
Bonjour!
Bonjour!
Pour commencer, Mia et Océane et Kylian ont interviewé le pianiste François qui est venu en concert à notre école. Ensuite, Gabriel et Éloine ont présenté les moments magiques de maîtresse Amandine. Pour finir, Louane et les deux Alice nous font le portrait du groupe de musique Les Innocents. On vous souhaite une bonne émission. Au revoir. À la prochaine. Merci.
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 L'interview du mois.
Bonjour, nous sommes dans notre studio de Radio Pomme.
Aujourd'hui, nous recevons un grand pianiste-compositeur. Nous avons découvert qu'il mène plein de projets avec son piano.
Nous allons poser des questions pour en savoir un peu plus. Bonjour Franck Sioup.
Bonjour les enfants, bonjour Mia, bonjour Océane, bonjour Kylian avec un Y, et bonjour Marie.
À quel âge avez-vous commencé le piano ?
Écoute, est-ce que tu vas me croire, Mia, si je te dis que j'ai commencé le piano hier ?
Non.
Non, bah vous ne me croyez pas, vous avez raison, là je suis un menteur. Quel âge vous avez ?
Moi, je vais avoir 8 ans.
Tu vas avoir 8 ans, toi pareil à peu près, 7, 8 ans ?
7, moi.
7 et toi ?
8 ans, et dans 2 mois, je vais avoir 9.
Oh, t'as presque 9 ans alors. Bon, en tout cas, conserve bien tes 8 ans, crois-moi, ça compte. Hein. Moi, tu vois, j'ai 63 ans depuis quelques mois, mais jusqu'à 2 jours de mon anniversaire, je disais toujours que j'avais 62 ans. Hein, parce que plus les années passent, plus on pense à hier encore, hein, la chanson d'Aznavour. Et là, j'ai commencé le piano. J'ai commencé, en fait, réellement à toucher à un piano et à travailler le piano à peu près à votre âge. Avant, j'avais un petit peu, il y avait un piano à la maison, je le touchais de temps en temps, le clavier, je posais mes doigts dessus, j'essayais de faire un accord, j'écoutais. Je savais que j'avais quelque chose que j'aimais beaucoup avec le piano. Le son du piano me plaisait beaucoup. C'est surtout ça, et je trouvais aussi la forme de l'instrument très beau. Il y a des pianos droits, comme ceux qu'on avait aujourd'hui, un beau piano droit sur scène, mais il y a aussi des pianos à queue, les grands pianos à queue, je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à une baleine, une belle baleine qui chante, une baleine noire, et posée sur des pieds, voilà, ça me plaisait beaucoup.
Jouez-vous de notre instrument ?
Écoute, déjà que j'ai du mal à jouer du piano, bien, alors je travaille que le piano. Il y a des gens, effectivement, tu as raison, qui jouent plusieurs instruments. C'est très très rare de pouvoir bien jouer d'un instrument à l'autre parce que ce sont des techniques différentes. Par exemple, le piano, tu as les doigts à plat sur des touches de clavier, des blanches, des noires. Le violon, bah, c'est pas pareil, c'est 4 cordes et tu joues avec un archet. Le violoncelle, c'est pareil, mais c'est une autre position de main. La trompette, c'est avec la bouche, même s'il y a des doigts. Bon voilà, tous les instruments, que ce soit avant, à cordes, ou piano, ou des percussions, ou la voix tout court, un chanteur, sa voix, c'est son instrument de musique. Donc voilà, le piano, moi, c'est vrai que c'était mon instrument.
Quelle est la musique que vous préférez jouer au piano ?
Écoute, c'est souvent la dernière que j'ai entendue qui m'a donné des émotions. Donc vous avez chanté une chanson tout à l'heure que j'ai beaucoup aimée, de Guillaume Ledoux, justement de Blancas, et c'était ma chanson préférée d'aujourd'hui. Mais parce que je venais de l'écouter, puis que je vous ai vu la chanter. Donc parfois, on a des émotions. Ce qui nous donne des préférences, ce sont des émotions. Les émotions, c'est ce qu'on ressent. Par exemple, tout à l'heure, Mia disait devant le micro, je suis en train de trembler. Elle avait une émotion parce qu'elle savait qu'elle allait être enregistrée, que sa voix allait porter, qu'on allait l'écouter. Donc elle avait un peu le trac, ça suggère, ça sous-entend qu'on va avoir des émotions, que le cœur bat un peu plus fort, et que on est un peu plus excité, que c'est pas un moment comme tous les jours.
Nous avons vu que vous proposiez des spectacles où vous jouez du piano pendant qu'une personne lit des textes. Comment est né ce projet ?
Alors c'est ce qu'on appelle les concerts piano-littérature. Alors vous imaginez par exemple, vous lisez un texte, on va prendre par exemple un texte d'Alphonse Daudet, La chef de Monsieur Seguin. Vous connaissez ce poème, enfin ce poème, ce conte d'Alphonse Daudet, La Chèvre de Monsieur Seguin. Ça vous dit Chevrette qui veut être libre et qui va au fond du jardin puis qui s'enfuit dans les bois. Vous connaissez ou pas? Pas forcément. Alors, par exemple, quel texte vous connaissez que vous avez lu dernièrement, un conte que vous aimez, Le Petit Chaperon Rouge. Vous connaissez pas non plus?
Si.
Ah, bah, va falloir le lire. En fait, la littérature, c'est ça. On prend un texte qu'on connaît. Donc, je vais essayer de faire derrière le texte une musique. Le début de la musique, ça va être elle est contente d'être dans les bois. La suite de la musique, c'est il fait un peu nuit, elle commence à avoir peur. Puis quand le loup apparaît, là, elle a peur. Et là, la musique, elle va essayer de s'adapter à ce qui est lu et ce qu'on se raconte dans la tête. Voilà. C'est ça le piano littérature. Alors bien sûr, après, les gens que tu dis, il y a des gens qui lisent, en fait, sont des acteurs ou des actrices ou des lecteurs, des lectrices. Et ils n'ont pas forcément écrit de livres, eux, mais en tout cas, ils lisent très bien. Ils savent raconter des histoires. Et souvent, le piano fait en alternance. C'est-à-dire que le piano ne joue pas en même temps que le texte pour qu'on écoute bien le texte, mais il joue en prolongement pour faire un écho au texte. Par exemple, si je dis à... imagine un texte qui dit à une femme « Je t'aime. Ah, mon Dieu, que tu as de beaux yeux. » Tu ne vas pas jouer « Papapi, papapa, papapa, papapa. » C'est ridicule. Il va falloir faire une musique un peu douce et qui soit aimante. Et par exemple, comme dans Les Dents de la Mer, quand tu vois le requin qui arrive dans la mer, tu fais... Et si tu fais... ça ne correspondra pas. Donc, il faut que ça corresponde. La musique doit correspondre à une émotion ressentie, à des images qu'on raconte.
Pouvez-vous nous dire ce que sont les concerts hôpitaux?
Ah, c'est bien étudier votre sujet. C'était l'idée, c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai eu le radiologue ce matin de l'hôpital de Bourges, qui est un ami, qui s'appelle Arnaud Quatrieux, et il est chef de service de l'hôpital, et il a eu pendant plus de 10 ans ce piano que j'ai fait mettre à l'école, un piano droit, pas l'école, que j'ai fait mettre, vous voyez, le lapsus révélateur, que j'ai fait mettre dans un hôpital à Bourges, l'hôpital Jacques Coeur, ce qui permettait qu'on aille jouer pour des malades, une fois par mois, et puis cette série, quand il y a eu le Covid, c'est un peu interrompu, et puis ils n'ont pas repris tout de suite. Alors à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, si on ne peut pas faire des concerts à l'hôpital avec le piano, je vais en faire autre part. Et ils m'ont dit si. Et en fait, on m'a demandé d'aller jouer dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est les gens qui sont vieux, malades. Et je me suis dit que c'était bien quand on était artiste, musicien, chanteur, lecteur, peintre, pourquoi pas clown, d'aller à l'hôpital et de pouvoir leur donner un peu un moment de, peut-être pas de bonheur, mais de réconfort, quelque chose qui va leur rappeler un souvenir. Je me souviens d'un vieux monsieur à l'hôpital qui était très vieux dans son fauteuil. Et quand il a entendu une musique que j'ai jouée, comme une valse, il s'est mis à danser la valse en disant que ça lui rappelait son grand-père et sa grand-mère qui dansaient la valse. C'était émouvant. Voilà, tu peux, grâce à la musique, tu peux te souvenir de choses que tu as entendues un jour. Alors là, vous voyez, vous étiez tout à l'heure au concert. Peut-être que vous n'avez pas perçu tout ce que votre corps et votre esprit a perçu, mais peut-être aussi que, sans le savoir vraiment, il y a des petites choses qui se sont glissées, qui reviendront un jour. Vous ne saurez pas pourquoi. Dans votre mémoire, il y a comme des tiroirs qui sont parfois avec des petites clés qui s'ouvrent un jour et ça apporte quelque chose. En tout cas, je l'espère.
Pensez-vous qu'il est important de rendre la musique classique accessible à tout le monde, même dans les campagnes comme chez nous?
Mais c'est plus que important, sauf que je vais te faire juste une remarque. Je ne sais pas ce que c'est que la musique classique. La musique classique, c'est peut-être, effectivement, là où je te rejoins, peut-être pas une musique d'aujourd'hui. Effectivement, c'est une musique qui a été écrite par Mozart, par Chopin, par Beethoven, des vieux messieurs aujourd'hui qui sont morts depuis très longtemps. Et on appelle ça classique parce que finalement, c'est très écrit, très joué, et c'est peut-être trop strictement sérieux. Peut-être. Et je pense que pour des jeunes... je crois que c'est important d'écouter quand même de la musique classique sans chercher à comprendre et d'écouter d'autres musiques. Parce qu'un jour, vous aurez peut-être des clés pour comprendre que cette musique dite classique, elle offre une panoplie exceptionnelle de pensées et de beauté. Et que finalement, dans ce monde, on recherche quoi? La beauté. Alors, effectivement, il y a des musiques plus simples qu'on retient plus facilement. Une chanson, c'est une musique populaire, simple, mais très souvent les chansons, et je pourrais plus vous le prouver si j'avais été au piano, elles démarrent d'un thème classique qui a été élaboré, mais qui est repris après en chanson plus simplement. Alors, le conseil que j'aurais à vous donner, ne vous dites pas qu'il y a une musique classique d'un côté ou qu'il y a une musique moderne de l'autre. Dites-vous qu'il y a toutes les musiques, plus ou moins bien jouées, mais que le côté virtuose d'une musique sur un instrument, ça apporte quand même une panoplie nettement supérieure à d'autres. C'est un peu comme si tu me disais, pensez-vous que l'équipe du Real Madrid ou de Paris Saint-Germain joue mieux que l'équipe de notre village ? C'est même sport, c'est pas le même niveau. C'est beaucoup plus incroyable de voir jouer des joueurs comme Mbappé, qui est peut-être à l'origine de ton prénom, mais il joue magnifiquement, Mbappé. Ou alors d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, etc. Oui, mais ou qui ?
Ou alors moi.
Ou alors toi, tu joues très bien au foot ? Eh bien écoute, j'espère que quand tu seras connu, tu m'inviteras à venir t'écouter ou te voir jouer, parce que c'est comme un concert, un match de foot. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas de niveau, il y a pas de petit niveau ou de grand niveau, quoi. Il faut être le meilleur possible dans tout ce qu'on fait, même simplement.
Vous avez fait construire un magnifique théâtre dans votre maison à Bourges. Nous avons découvert que son acoustique est l'une des plus belles au monde. Comment avez-vous obtenu ce résultat ?
Alors, on va déjà parler de plusieurs choses. J'aime beaucoup cette question. Alors, l'acoustique, c'est quoi ? C'est la restitution du son avec vos oreilles. C'est-à-dire que vous vous asseyez quelque part et vous vous dites « Waouh, ce que j'entends, ce sont comme des lettres en cristal. Ce sont comme des notes, comme des perles. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne incroyable ici. » C'est ça, une acoustique. Et le piano, alors il faut un très beau piano de concert. Là, on avait un très bon piano droit, mais dans une grande salle de concert ou une petite salle, tu peux avoir un beau piano à queue de concert, comme un Steinway, un Bechstein. Ce sont des très, très beaux pianos qui donnent des sonorités merveilleuses. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une des plus belles acoustiques au monde ? On ne fait rien tout seul dans la vie. Jamais rien tout seul. Il faut juste apprendre qu'on fait à plusieurs. On fait à plusieurs en écoutant ceux qui savent et en essayant de donner aussi notre avis aux choses, mais en se renseignant. Il faut avoir beaucoup d'humilité face à tout ce qu'on fait parce que y a les gens qui vous disent « Moi, je sais, je me méfie. Hein. Moi, j'essaye de faire bien, mais je me renseigne aussi. » Et j'ai eu la chance d'être aidé par un merveilleux décorateur qui s'appelait Jean-Luc Charpagne, qui s'appelle toujours Jean-Luc Charpagne, qui décorait magnifiquement. Et on a réfléchi tous les deux. On s'est dit, mais c'est quoi la meilleure acoustique ? On s'est renseigné, on a téléphoné à des gens, on a regardé sur Internet et on a vu qu'il fallait équilibrer les choses qui absorbaient le son, comme le velours, comme justement des tentures ou des chaises en velours. Et qu'il y avait aussi donc ça, c'est des absorbants. Et qu'il y avait aussi des réverbérants, comme les glaces ou le parquet. Et ça donne une réverbération. Donc on avait lu qu'il fallait absolument avoir un équilibre entre les réverbérants et les absorbants. Donc voilà pourquoi... Après, on peut avoir une belle salle. Maintenant, on ne fait pas soi-même. Et moi, j'avais la chance dans ma maison d'avoir une grande grange que je pouvais refaire pour faire une sorte de salon de musique. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça devienne un lieu aussi connu internationalement et que les plus grands pianistes du monde viennent toujours y jouer. D'ailleurs, en ce moment, j'ai une japonaise, Kumi, qui est en train de répéter avec Anastasia Chapoval au violon, qui est en plus ma belle-fille. Et ils ont un concert demain à 17h. Donc moi, demain, après le concert avec Guillaume Ledoux, demain matin, on prend la voiture à 10h. J'arrive à Bourges, normalement vers 14h. Et il y a un concert à 17h avec le piano-violon. Et il y aura un autre concert avec un trio aussi après à 20h30. Donc voilà, c'est une vie qui n'arrête pas. Après, je suis à Paris. Justement, tu parlais de littérature tout à l'heure, Mia, avec Vincent Fernandel, qui est un acteur exceptionnel et qui est le petit-fils de Fernandel et aussi le fils de Franck Fernandel dans un spectacle Variation d'amour, mise en scène par Nicolas Pagnol. Nicolas Pagnol, c'est le petit-fils de Marcel Pagnol. Vous connaissez Marcel Pagnol ? Vous avez été voir son film ? Il a sorti un film qui s'appelle Monsieur Marcel, là il faut aller voir au cinéma. C'est un dessin animé qui est très beau, qui parle de Marcel Pagnol. Et Marcel Pagnol, il a beaucoup écrit pour la jeunesse, l'enfance.
Ce soir, vous jouez du piano, accompagné de Guillaume Ledoux, pour interpréter les grandes œuvres de la chanson française dans notre école.
Oui, est-ce que tu étais là tout à l'heure au spectacle ? On a fait pratiquement le même concert que les grands vont avoir ce soir. Ça sera peut-être un petit peu plus interactif, il y aura peut-être plus de blagues entre nous, peut-être un peu plus concentré, parce que les grands, normalement, ils savent que s'ils parlent, ils vont recevoir une claque, alors que les petits, c'est normal qu'ils puissent parler de temps en temps, et puis qu'ils puissent rigoler. Mais il faut savoir quand même que pour vous, enfants, la salle de concert, écouter un concert, c'est une école aussi d'apprentissage. C'est ce qu'on vous explique tout le temps en cours, avec vos professeurs, de savoir bien les écouter. Pourquoi ? Pas seulement pour le respect, parce qu'ils vont vous enseigner quelque chose, mais parce que quand vous allez apprendre à écouter les autres, vous allez apprendre à mieux vous écouter vous-même et à savoir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous êtes vraiment, pas seulement le copain d'à côté qui rigole, etc. C'est important d'apprendre à écouter aussi. C'est un des rares moments où on s'oublie, où on n'a pas quelque chose à dire. Alors là, on est à la radio, on peut parler, ça n'a rien à voir.
Nous avons déjà eu la chance de vous écouter cet après-midi, c'était super. C'était super. Nous vous souhaitons un bon cancer.
Bah, moi, c'est moi qui vous souhaite plein de choses, les enfants, et qui vous remercie de votre attention et de votre gentillesse. Vous savez, le poète Jacques Prévert disait « Les enfants ont tout, sauf ce qu'on leur enlève ». C'est-à-dire que je vous souhaite de garder tout ce que vous avez au fond de votre cœur et pas trop écouter les adultes qui vous enlèvent plein de choses, parce qu'ils sont trop sérieux en général, les adultes. Mais des fois, il faut les écouter quand même. Hein.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir, FranTube.
Eh bien, au revoir. Et puis, c'était un plaisir d'être à Chanac avec vous tous, avec bien sûr Mia, Kylian, Océane. Et Marie, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais elle est derrière les machines. Marie, c'est la directrice en chef. Hein. C'est elle qui fait cette émission de radio magnifique dans l'école. Et puis, bah, merci à vous tous. Et je précise juste une chose. Toi, tu as dit, vous allez accompagner Guillaume Ledoux. Non, tu as dit le contraire. Guillaume Ledoux va vous accompagner. Non, un duo, c'est deux personnes sur scène qui pratiquent le même langage, dans un même travail et dans le même amour. Donc voilà, c'est d'abord l'amitié et c'est ça qui fait le duo. C'est ça qui fait l'histoire.
Moi, je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mirliflore, connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte, tant sur terre que sur la flotte, par les mers et les continents. Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard. Je l'ai compris beaucoup trop tard. Je regardais trop ce qui brille. Sans rêver, j'ai gâché mes limberges. La gamberge a fait de moi pauvre homme de plus. Même si je voulais brûler un cierge.
À l'école, on travaille, mais on se détend aussi.
Bonjour, je m'appelle Elouane.
Et moi, Gabriel.
Nous sommes dans la salle 204. Nous attendons Amandine et les élèves de CP pour le moment magique.
Nous voyons dans cette salle un grand tapis bleu carré avec au milieu un petit tapis représentant un mandala et il y a une musique douce. Les élèves et Amandine commencent à arriver.
Bonjour Amandine. À quoi servent les moments magiques ?
Bonjour les enfants, alors les moments magiques c'est vraiment des temps de bien-être et de détente, donc destinés aux enfants. C'est des temps pendant lesquels on prend soin de soi avec des exercices de relaxation, de respiration, des postures de yoga et des jeux. Le but c'est vraiment d'exprimer ses émotions, de cultiver son calme intérieur et de grandir la confiance en soi.
Pourquoi y a-t-il ce petit koala au fond de la pièce ?
Ah, il est intriguant, hein, ce petit koala. En fait, il nous sert à faire sentir bon. Je trouve que c'est important qu'il y ait comme une signature olfactive dans la pièce. Donc, je diffuse de l'huile essentielle d'orange pour créer une ambiance douce et chaleureuse.
Merci.
Ah, mais super. Chacun a pris sa place. Bienvenue à tous dans ce nouveau roman magique. On est vendredi. Et comme d'habitude, on va commencer notre atelier par distribution des bougies. Donc c'est toi, Nathan, qui est à côté de moi, qui va pouvoir faire passer les bougies. On va prendre notre petit doudou magique, le nuage, et lui confier à tous. Comment on se sent ? Tu veux quoi ? Comment c'est, mon grand ? Comment tu te sens aujourd'hui ?
C'est vrai parce que je suis
en train. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai parce que j'ai fait un gros trou d'orange et une grosse base pour les orange. Moi, c'est... Je suis juste
contente. Tu te sens comment?
Bien.
Tu te sens bien?
Tu as l'air orange?
Oui. Maintenant qu'on a dit à notre petit loulou comment on sentait, on va faire le palmier magique. Tendez vos petites mains et on va mettre des paillettes magiques. Ah, c'est bien, bien chaud. On se met dans le noir. Et ce petit travail, il est fait pour se soulager les yeux. Donc, on va monter en haut. En bas, à gauche, à droite, et on tourne à gauche, à droite, dans tous les sens. Ça vient soulager la fatigue des yeux du matin. On refait chauffer nos paillettes, et maintenant, on va s'en soulager de nos oreilles. Et dans sa tête, on compte jusqu'à 10. Et maintenant, on prend soin de son cœur. Hop. Pareil. Un tout petit moment. Et maintenant, les enfants, pour le prochain rituel, je vous invite à vous allonger sur le dos. La tête côté tapis. Voilà, sur le dos. Et moi, je passe. Vous mettez votre petite bougie sur le ventre. On va faire la respiration de l'étoile. Donc, on va mettre la bougie sur son ventre. Voilà, on met la bougie. Allez, on se concentre un peu et c'est assez rigolo. Vous allez regarder votre bougie, la vôtre, chacun sur son ventre. Et quand vous allez gonfler votre ventre, pour faire entrer de l'air, votre ventre il va se gonfler, la bougie elle va monter. Et après, vous soufflez par la bouche. Vous devez voir la bougie qui se creuse et qui rentre dans votre ventre. Regardez votre bougie. On fait rentrer l'air, on souffle. Et on souffle. On fait rentrer l'air. Et une dernière fois, on peut même fermer ses yeux. Dernière fois, je sais que c'est un peu rigolo. Et on souffle. Allez, reprenez votre petite bougie. On la remet à sa place.
Le volcan. Les aigles sauvages.
Qu'est-ce que tu préfères dans les moments magiques?
Moi, j'aime bien faire le magasin.
Faire le magasin.
Magasin.
Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est une danse où ça parle de la France.
J'adore quand on fait la chanson.
Comment tu te sens à la fin de la séance?
Moi, je me sens plus content. Que la fin parce que quand j'ai on s'est bien excité avec mon fiancé. On a rigolé un peu comme les poils.
On s'est respiré.
Bien parce qu'avec les talons, j'ai lui quand on fait passer le ballon avec mes poils.
Bien parce que avec Lucas, et puis on s'est amusé, on était fous.
Moi, j'ai adoré tout le moment magique parce que ça fait depuis que j'ai commencé le moment magique que je me sens beaucoup mieux.
Quand on respire avec la bouche sur le ventre, je me sens bien parce que ça faisait comme un tuyau qui descendait.
C'était une fois un portrait. Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir peut-être le groupe Les Innocents. Tout commence en 1982. Le groupe pop rock Les Innocents se forme suite à des rencontres amicales à Paris autour du chanteur et guitariste Jean-Philippe Nataf, dit JP.
En 1985, ils sortent Pamela.
leur premier single. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il faut attendre la chanson Jody qui sort en 1987 pour que le groupe se fasse connaître.
L'année 1988 marque l'arrivée de Jean-Christophe Urbain, dit JC. Le premier album des Innocents sort en 1989. 100 mètres au paradis fait fureur au Canada. Mais ce n'est qu'avec le deuxième opus Voilier que le public français devient fan du groupe. Avec des titres comme Un homme extraordinaire et L'autre Finistère. Entre 1994 et 1997, le groupe Les Innocents décroche 3 victoires de la musique dans la catégorie groupe de l'année. Pendant cette période, le tube Color remporte un grand succès auprès du public.
En 1999, ils poursuivent l'aventure avec leur 4e album, tout simplement intitulé Les Innocents. L'échec de celui-ci entraîne la séparation de groupe. Les membres continuent leur route de leur côté.
Presque 15 ans après, JP et JC se retrouvent pour un premier concert en duo à Montréal. En 2015, c'est l'album du retour, Mandarine, qui remporte une 4e victoire de l'année. Suivi de 6 et demi, leur dernier album sorti en 2019. Le 29 novembre 2025, le duo des Innocents se produira un concert exceptionnel à la salle des fêtes de Charnac. À ne surtout pas manquer!
En attendant, passez une bonne journée!
Radio Pomme.
Les petites oreilles.